tamaleze waka yugwale.
Et 19 minutes sur Radio de la Paix. La tontine sexuelle, c'est un phénomène qui a été constaté dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, ce phénomène fait son petit bonhomme de chemin ici en Côte d'Ivoire. En effet, de plus en plus dans les écoles et lycées, il est question de tontine sexuelle. Qu'est-ce que c'est? Comment cette pratique a-t-elle fait incursion dans le milieu de l'apprentissage et du savoir? Quels sont les risques liés à ce phénomène? Quelles solutions? Avec nos invités sur le plateau, nous discuterons autour de ces différents points et de bien d'autres, évidemment. Tout de suite, je me tourne vers vous, Jocelyne Doiroux. Bonjour.
Bonjour, chère amie.
Vous êtes présidente de la Confédération des femmes laïques pour la réhabilitation de l'image de la femme.
Tout à fait.
D'accord. Avec vous sur notre plateau, Cambou Rodrigue. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiant et membre du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé sexuelle et de la reproduction en Côte d'Ivoire. Nyon Patrice, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes du programme national de lutte contre le sida.
Oui, programme national de lutte contre le sida, assistant communication ciblant les adolescents et les jeunes.
D'accord, précision de taille. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Alors, juste rappeler aux auditeurs qui pourront intervenir au cours de cet échange en composant tout simplement le 20-20-24-91 ou le 20-20-24-92. Alors, nous parlons de tontine sexuelle. On en entend parler et bien sûr, ça défraye la chronique. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la tontine sexuelle? On va tout de suite nous adresser à Rodrigue. Vous qui êtes sur le plateau, le représentant de la jeunesse.
Oui, oui. Ok, merci pour cette occasion que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer.
Je vous en prie.
Ok, la tontine sexuelle, il faut dire que c'est un groupe de jeunes filles qui se mettent ensemble et qui... À la base, la tontine, c'était d'abord des femmes...
Alors, on va demander à Yves Béhi de le temps qu'il puisse bien, comment on va dire, régler votre micro. On va passer la parole à Jocelyne Doiroux.
Merci bien, chère dame. En fait, pour parler des tontines sexuelles, il faut parler d'abord des tontines. Qu'est-ce qu'une tontine? Une tontine, c'est pratiquement une entraide que les femmes font entre elles. Bon, l'autre cotise, et puis bon, quand c'est une qui prend, on lui donne sa part. Et nos jeunes sœurs aujourd'hui, sinon que nos filles, ont plutôt transporté ça dans leur éducation sexuelle. Donc aujourd'hui, on peut retrouver 4 à 5 jeunes filles qui se mettent ensemble, qui prennent attache avec un prosénète. Et lui, en retour, qu'est-ce qu'il fait? Il est chargé de trouver quelqu'un, ou bien même soit même 4 à 5 personnes pour faire une patouze. Et la patouze, ce groupe de jeunes filles qui se sont mises ensemble là.
Je pense qu'on aura le temps de parler de toutes les caractéristiques de ce phénomène. Nyon Patrice.
Oui, comme dit Madame Doiroux, la tontine à l'origine c'est une entraide.
Une sorte d'épargne.
Voilà. C'est-à-dire qu'on se cotise de l'argent et à tour de rôle, chacun prend sa part. Et là, les jeunes ont transposé ça sur le plan sexuel. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'organiser pour que l'un d'entre eux, à tour de rôle, ait au moins un rapport sexuel.
D'accord. Alors, comment cette... on va dire, quelle est l'origine de ce phénomène? Comment, justement, l'idée vient de transposer la première façon de voir la tontine à la tontine sexuelle? Comment cette pratique, on peut expliquer avec vous, Cambou Rodrigue?
D'accord. Il faut dire que cette pratique est venue pour, si je peux dire ainsi, combler les besoins des jeunes filles. Et par exemple, les jeunes filles qui viennent, par exemple, en ville pour des études, qui n'ont pas assez de moyens ou bien qui sont abandonnés par les parents et qui ont des besoins à satisfaire. Quand elle tombe dans un environnement avec deux jeunes filles qui ont déjà cette pratique-là, vont l'encourager à pouvoir adopter cette même pratique-là. Donc c'est un peu ça la cause, c'est le besoin de pouvoir satisfaire certains désirs en termes de finances, en termes de
matériel. Donc on va parler aussi de la situation de précarité financière.
C'est ça.
Doirou, Jocelyne.
En fait, il y a ça. Il y a la situation de pauvreté, mais nous, à la Confédération des femmes laïques, on dit que ce n'est pas, l'argument n'est pas solide. En fait, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit vivre indécemment. Mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de loi en tant que telle qui protège nos élèves à l'école. Madame le ministre Kandia a pris, par exemple, une loi pour dire que désormais, un professeur qui a une relation sexuelle avec son élève, il est radié ou bien il est expulsé du corps. Mais les élèves eux-mêmes là, quelle est vraiment cette loi là qui vraiment les interdit à se prêter à ce genre de fléau là? Il n'y en a pas. Donc en fait, il n'y a pas de loi en tant que telle. La loi par exemple sur les débits de boissons en Côte d'Ivoire ne sont pas respectés, alors que cette loi a été promulguée par le chef de l'État, M. Alassane Ouattara. Cette loi là n'est pas appliquée sur le terrain, donc ça fait que nos jeunes sœurs sont vraiment livrées à vraiment n'importe quoi, quoi. À vraiment n'importe quoi. Elles s'élèvent aujourd'hui parce qu'elles n'ont personne. Elles vont se livrer à ça. Bon, nous, on dit que c'est pas une raison.
Quoi. C'est pas solide. Alors, si vous le permettez, Jocelyne Doirou, nous allons prendre un auditeur. Allô, allô.
Allô.
Allô, bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Quel est votre nom, s'il vous plaît?
Monsieur Bamba.
Allô.
Allô, j'ai dit monsieur Bamba.
D'accord. Monsieur Bamba nous appelle d'où, s'il vous plaît?
Je suis au niveau du plateau.
D'accord. Alors, quelle est votre préoccupation?
Bon, en fait, quand je connais un peu l'invité sur votre plateau, en fait, les raisons ne sont pas d'autres financières. On n'a pas de d'autres financières.
D'accord.
Aujourd'hui, nos jeunes sœurs, il y a ce phénomène de super avoir qui amène les jeunes filles à faire ce pratique. Parce qu'il y a des jeunes filles, même si de fois, ça va, parce que les parents n'ont pas les moyens. Les parents ont bien donné les moyens, mais je ne sais pas qu'est-ce qui passe par le fait de l'autre façon. Sincèrement, jusqu'à présent, on ne peut pas les raisons. Parce que ce n'est pas le côté financier pour moi qui va vous sortir ça.
D'accord. Ce sera tout pour votre contribution.
Oui.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, retour sur le plateau. Notre auditeur, justement, ne lit pas seulement, comme vous l'avez tantôt dit, il trouve que ce n'est pas seulement les raisons qui poussent les jeunes filles à s'adonner à cette pratique.
En fait, même, il n'y a aucune raison. Il n'y a vraiment aucune raison. C'est vrai qu'on assiste à la démission de certains parents. Comme tout à l'heure, mon jeune frère Rodrigue l'a dit, parce que lorsque des parents quittent dans des villages pour venir inscrire leurs enfants dans des lycées, ils prennent la peine peut-être de chercher un tuteur au début de la rentrée. Et après, ils n'y passent plus. Ils ne cherchent plus à savoir qu'est-ce que les enfants, qu'est-ce qu'ils mangent, comment les enfants vivent. Donc du coup, ces jeunes filles-là sont obligées de prendre la tâche avec d'autres amis qui vraiment les introduisent dans ce genre de pratiques-là. Mais en fait, en dehors du fait que c'est la démission de certains parents, moi je ne trouve pas que la pauvreté soit vraiment une raison pour vivre dans cette dépravation des mœurs-là.
D'accord. Alors, Patrice, alors selon vous, qu'est-ce qui pousse les jeunes à de telles pratiques? Alors,
quand vous échangez avec les jeunes, le plus souvent ils se disent, ceux qui n'ont pas les moyens, parce qu'il y a aussi une question de moyens. Ils se disent aujourd'hui, pour pouvoir avoir une jeune fille, il faut pouvoir lui offrir quelque chose, même si c'est autour d'un pot, il faut payer à manger, il faut payer à boire pour l'avoir. Mais ils n'ont pas ces moyens-là. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se cotiser pour permettre à l'un d'entre eux de pouvoir avoir droit à une rencontre qui va aboutir à des rapports sexuels. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont imaginé.
Donc là, il y a deux cas de figure. Il y a le cas qui concerne les jeunes filles Et ce que vous venez d'expliquer concerne les jeunes garçons.
Même les jeunes filles aussi le font.
Mmh,
c'est-à-dire que les jeunes garçons qui n'ont même pas fait notre première expérience sexuelle peuvent bénéficier de l'appui de la tontine pour pouvoir avoir leur... Ils peuvent louer les services d'une professionnelle de sexe pour aller dans un hôtel, avoir leur premier rapport sexuel. Et c'est comme ça que les jeunes prennent assez de risques, en fait.
D'accord, oui.
Oui, au fait, pour ajouter à ce qui a été dit, il faut dire qu'il y a le contexte aussi de l'environnement. L'environnement dans lequel le jeune se trouve. Parce que c'est vrai, il y a cité le facteur financier. Mais parfois, il y a des jeunes qui se trouvent dans un milieu où tous les autres amis le font. Donc, si ce jeune n'en a pas cette confiance, mais cette estime de soi, va vouloir faire comme les autres, alors que les autres ne sont pas dans le droit chemin. Donc, il y a l'environnement dans lequel aussi le jeune se retrouve qui joue aussi sur ces pratiques-là.
D'accord. Alors, pour vous qui êtes le plus souvent sur le terrain, quelle est l'ampleur du phénomène, Union Patrice?
Ce qu'on sait, c'est que ça se pratique dans presque tous les lycées et collèges. Hein? Et puis il y a d'autres pratiques qui, en dehors des tontines sexuelles, qui sont des pratiques à risque, telles que ce qu'ils appellent les éparties, où ils se retrouvent, là aussi ils cotisent, hein? Ils se cotisent de l'argent, ils y mettent ensemble, ils louent un local, et puis c'est l'abusement à outrance, jusqu'au petit matin, avec tout ce que ça comporte comme boissons, drogue et tout ça. Et après, ça aboutit à des rapports sexuels. Donc, ça prend vraiment de l'ampleur. C'est devenu presque un jeu pour les jeunes, maintenant. Presque un jeu.
Mm-hmm. Est-ce qu'on peut parler aussi du facteur hormone en pleine croissance aussi?
Oui, parce que la jeunesse ou l'adolescence, c'est la période où on découvre, on se découvre soi-même, on découvre tout ce qu'il y a dans l'environnement et on a envie d'expérimenter. Donc il y a tous ces facteurs-là aussi qui jouent dans la balance de ces jeunes-là.
D'accord. Jocelyne Douarou, l'ampleur du phénomène, quelle est la réalité?
En fait, il a dit tout à l'heure, nous, on a initié les Oscars de la décence, puisqu'on fait la promotion de la jeune fille en milieu scolaire. On fait beaucoup les sensibilisations dans les lycées et collèges. Il se trouve que, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, ça a vraiment pris de l'ampleur. Parce que l'année passée, à la deuxième édition des Oscars, j'ai décrié, j'ai même annoncé qu'il y a un phénomène qui se passe en milieu scolaire qui n'est pas joli à voir les tontines sexuelles. Ils m'ont tassé des radicales. Mais l'année passée, lorsqu'on faisait le terrain, ça avait commencé à prendre de l'ampleur. On a même essayé même d'estiper certaines jeunes filles de là. Mais comment on appelle ça? En fait, une fois qu'on les enlève là, où est-ce qu'on doit les mettre? Voilà, c'est ça aussi le problème, parce qu'il n'y a plus d'internat. Les foyers même se font rares. Donc, du coup, ces jeunes filles-là sont vraiment livrées. Donc, ça fait vraiment accroître le chiffre de tontines sexuelles. Cette année encore, nous sommes sur 25 régions. On vient de finir 20 régions de la Côte d'Ivoire. Si, par exemple, je dois faire un bilan, c'est que la tontine sexuelle a vraiment pris de l'ampleur.
Mmh.
Elle a vraiment pris de l'ampleur. Et là, c'est fait par des procénètes qui approchent même les élèves, même étant même à l'école, qui vont de ville en ville. Ça dit, par exemple, je prends un exemple banal, ils peuvent prendre des jeunes filles à Daloa qu'ils envoient se prostituer à Boisflé. Comme Daloa, Boisflé, c'est pas loin. Donc, elles s'en vont le vendredi. Et souvent, quand tu regardes, c'est à partir de la quatrième.
Quel âge environ?
Souvent, à partir de 15 ans. À partir de 15 ans, bon, c'est vraiment décevant. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de loi qui protège nos enfants en milieu scolaire. Et tant que cette loi-là n'est pas vraiment promulguée, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Nous, on fait la sensibilisation, mais en fait, il faut des lois fortes pour taper dessus. C'est en cela que je salue M. le maire de Tiassalé. Voilà un maire qui a dit, lorsque je serai élu, je vais interdire tout le monde de 18 ans dans les débits de boissons. Il a été élu, il a appliqué cette loi-là. Il a pris vraiment quoi la peine d'appeler tous les tenanciers de maquis pour dire désormais, un enfant de moins de 18 ans qu'on retrouve dans des maquis, en tout cas, il y a vraiment une peine pour vous.
D'accord. Kambou Rodrigue, oui, oui. Concernant l'ampleur du phénomène.
Bon, il faut dire que ça devient vraiment sérieux parce qu'on en parle de partout et pratiquement comme mes parents l'ont dit, on trouve dans pratiquement toutes les écoles aujourd'hui et même dans les quartiers, c'est devenu fréquent. Et les jeunes n'ont plus, comment on appelle ça, ce mal à se donner à ces pratiques. C'est devenu un phénomène qui est normal, c'est une habitude. Donc, il n'y a aucune gêne en pratiquant cela. Donc, c'est vraiment...
Ça. Alors, une petite question. À quel moment ces élèves trouvent-ils le temps de s'adonner à de telles pratiques? Et puis, est-ce que c'est seulement circonscrit au collège, au lycée, aux établissements scolaires?
Ça se fait plus
dans les lycées. On va y aller avec, d'accord,
ça se fait plus dans les lycées,
Jocelyne Doiroux.
Mais le plus souvent, c'est les filles qui ne sont pas en classe d'examen. Celles qu'on a rencontrées même dans ce phénomène-là, elles ne sont pas en classe d'examen. Sinon, les jeunes filles qui n'ont pas les moyens, qui sont vraiment conscientes, n'y vont pas. Elles n'y vont pas. C'est vrai que vraiment, quoi, les parents ne leur donnent pas à manger, mais elles n'y vont pas. Mais qu'on pense à celles qu'on retrouve dans ce milieu-là, le plus souvent, c'est à partir de la quatrième, seconde, première. Voici les trois classes-là qui sont beaucoup... impliqué dedans.
Union Patrice.
Oui, enfin, je veux dire que ça commence par un petit groupe d'influence parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est leader quelque part et qui entraîne les autres. Si vous sortez les vendredis, vous mettez devant un maquis, vous allez voir toutes les jeunes filles en bleu et blanc assises dans les maquis, toutes seules, en groupe, hein, en train de consommer de l'alcool. Et une fois qu'on a consommé de l'alcool, ça dit qu'on n'a plus de lucidité pour avoir un bon raisonnement. Donc, on va forcément être influencé si quelqu'un nous propose telle chose, telle pratique. Bon, voilà. Voilà un peu comment les choses évoluent un peu au niveau de ces jeunes-là. Donc, interdire les débuts de boissons aux jeunes de moins de 18 ans, ce serait vraiment une bonne chose pour pouvoir mettre frein à
cette... Alors, vous sous-entendez que cette pratique a un lien avec l'usage de l'alcool, peut-être même de la drogue aussi,
de
en milieu drogue, scolaire.
Effectivement, tout ça. De la drogue. Parce que, mine de rien, ces jeunes filles-là, et le plus souvent, c'est de la drogue qu'on injecte dans leurs boissons.
Sans qu'elles ne sachent ou avec
le... Sans qu'elles ne sachent. Et les témoignages qu'on a eus en fin d'année, il s'est trouvé qu'il y en a parmi elles qui ont été vendues comme esclaves sexuels dans les pays maghrébins. Ça a commencé au lycée, là. Non, j'ai mon vieux père qui est là. Non, on a un groupe, viens te mettre dedans. Elle s'est mise dedans inconsciemment. Elle s'est retrouvée en tant qu'esclave sexuelle. Bon, le temps que nous, on nous interpelle en tant que ONG... Mais toi, tu as déjà subi.
Je pense que là, ça fait plus partie des risques concernant cette pratique. Nyon Patrice, quelque chose à ajouter?
Oui, en fait, pour revenir à l'ampleur que ça prend, quand nous regardons nos chiffres de janvier à septembre 2018, qu'on appelle par rapport aux infections sexuellement transmissibles chez les jeunes, vous avez 68 833 cas d'infections sexuellement transmissibles chez les jeunes de 15 à 24 ans. Alors, nous savons que les infections sexuellement transmissibles sont la porte ouverte au VIH. Donc, avoir un tel chiffre, c'est, pour nous, c'est alarmant. C'est déjà beaucoup. De janvier à septembre 2018.
Même pas en une année. Hein.
De janvier à septembre 2018.
Vous avez dit combien?
De janvier à septembre 2018, 68 833 cas d'infections sexuellement transmissibles chez les jeunes de 15-24 ans.
En seulement 9 mois.
Voilà, c'est déjà beaucoup. Alors derrière une infection, c'est-à-dire on peut voir aussi des cas de grossesse qui vont apparaître et des cas de VIH. Si nous prenons les cas de VIH, hein, les nouvellement infectés de janvier à septembre 2018, dans la tranche d'âge de 15-24 ans, on a 2875 jeunes filles contre 733 jeunes garçons de la même tranche d'âge, 15-24 ans. Pour nous, c'est trop. Et bon, c'est pour ça aussi que nous initions des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire, hein, dans tous les établissements, pour pouvoir aider au changement de comportement.
D'accord. Kambou Rodrigue, alors, comme je le demandais un peu plus en avant, à quel moment ces jeunes élèves trouvent le temps de s'adonner à de telles pratiques?
D'accord. Il faut dire que le temps que les jeunes utilisent pour pouvoir pratiquer ce genre de choses, d'abord, il y a le temps de pause à l'école. Le temps de pause à l'école, c'est-à-dire entre midi et deux, ces temps sont libres. Je prends par exemple, avant, quand nous étions au lycée, même quand on restait à l'école pour pouvoir continuer le cours l'après-midi, on avait juste un temps pour le repas. Et après, il y avait un suivi des éducateurs, tout ça. Maintenant, les jeunes sont... Quand les midis, chacun s'en va se chercher, il y a pas, ils sortent de l'école, tout. Et même les activités extrascolaires, les samedis ou bien les vendredis soir, les jeunes vont à l'école pour des activités qui doivent finir à 8h midi. Et parfois aussi, il n'y a pas, comment on appelle ça, il n'y a pas cette information, le retour des éducateurs aux parents pour dire on a fini l'activité. Donc quand les jeunes finissent, ils vont continuer eux-mêmes les activités et s'emmènent souvent à 18h. Mm-hmm. Ils disent qu'on vient de finir à l'école. Or, le temps à l'école, c'était par exemple, ils ont fini à midi. Donc il y a ce temps de pause entre midi et 2. Et il y a aussi les week-ends où les jeunes sortent sous prétexte qu'ils ont des activités extrascolaires. Mm-hmm. Par contre, ils vont faire d'autres choses.
D'accord. Alors, on pourrait parler d'une sorte de prostitution déguisée. Hein, à écouter tout à l'heure ce que Jocelyne Douaourou a exposé. Nyon, Patrice?
Oui. En termes de pratiques prostitutionnelles, nous on dit on a des prostituées affichées et puis des non affichées. Celles qui sont affichées, c'est celles qui en font leur travail. Et les élèves qui, de temps en temps, passent par là, ne s'affichent pas. Et le risque, pour nous, se trouve dans celles qui sont non affichées. Parce que nous, on a un programme qui suit celles qui sont affichées. Donc, elles bénéficient de certains soins et tout ça. Mais celles qui sont non affichées, par contre, elles ne rentrent pas dans notre... j'allais dire notre circuit de prise en charge et tout ça. Donc, ça fait que c'est un peu difficile. Et c'est ça qui va, c'est dans ce milieu-là que la propagation va se faire, en fait. Le risque de propagation des infections sexuellement transmissibles, du VIH, va se faire.
D'accord. Alors, tout à l'heure, Jocelyne Douaourou a parlé de prostitution, justement, de jeunes filles qui sont vendues comme esclaves sexuelles à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Pour parler des risques liés à cette pratique, Kambou Rodrigue, qu'est-ce que vous pourrez nous dire à ce sujet?
Bon, en termes de risque, il faut que les filles soient exposées à... Mais bon, je ne vais pas dire les filles, mais je vais dire les jeunes qui pratiquent ces choses sont exposés à beaucoup, beaucoup de dangers. Tout à l'heure, le papa a parlé des infections sexuellement transmissibles, du VIH-SIDA. Et pour les jeunes filles qui ont des rapports sexuels un peu plus tôt, avant la maturité, sont aussi exposées au cancer du col de l'utérus. Voilà. Et il y a ce côté, comment on appelle ça, psychologie qui va jouer sur même les études de la jeune fille. La jeune fille aussi pourra contacter une grossesse. Donc, il y a vraiment assez de risques qui viennent mettre en danger la vie de la jeune fille et même du jeune garçon qui s'adonne à ces pratiques-là.
D'accord. Union Patrice?
Oui, quand vous êtes vendu comme esclave, ça veut dire qu'on peut user de vous à n'importe quel moment, on peut abuser de vous à n'importe quel moment, on peut faire tout ce qu'on veut de vous parce que vous dépendez de cette personne-là. Et où il n'y a personne pour défendre vos droits, pour vous protéger contre quoi que ce soit. On fait de vous ce qu'on veut. Et vous serez exposé à toutes les infections. Parce que je ne crois pas que celui qui va abuser de vous va prendre le soin d'utiliser un préservatif. Non. Donc, comme il a dit, les infections sexuellement transmissibles, le cancer du col de l'utérus, et puis, comment on appelle, le VIH, pourquoi pas.
Jocelyne Douaourou, vous avez quelque chose à ajouter concernant les risques?
En fait... Concernant les risques, je voulais intervenir sur la grossesse. En fait, nous, souvent, on est choqués. On est choqués souvent de voir une jeune fille de 5e, de 6e enceinte. Ça veut dire qu'elle n'a pas pris de préservatif.
Mais est-ce que c'est lié forcément à la tontine sexuelle?
À la tontine sexuelle, je dis oui. Parce qu'en fait, il y a l'esprit de groupe. L'esprit de groupe, surtout, qui joue. Quand vous voyez des filles 4, 5, 6, là, qui sont ensemble, là, laissez-les partir. Bon, le plus souvent, quand on fait le terrain, elles disent, non, madame, laissez les pâtés. En fait, il y a une des dents qui est en train de sensibiliser les autres pour dire, non, faut venir, ça va t'aider, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, elles aussi, elles suivent. Une fois qu'elles suivent, bon, elles n'ont pas un peu la notion de se protéger. Mmh. Donc, du coup, quand bon, elles font les patous, celles, par exemple, qui sont dans les mauvaises périodes, elles se chopent une grossesse. Et aussi, la tontine sexuelle se passe aussi entre élèves. C'est ça même qui est le plus dangereux. C'est vrai qu'on voit les prédateurs qui sont dehors, mais le problème même, c'est entre les élèves là eux-mêmes. Entre les élèves eux-mêmes. Donc vraiment quoi, en fait, on va beau les sensibiliser, mais tant qu'il n'y a pas de loi pour pouvoir, vraiment quoi, pour pouvoir les freiner, c'est vraiment compliqué. Parce que ça a tellement pris de l'ampleur que d'autres même, ils influencent même physiquement, hein, physiquement. Il lui dit, ah, si jamais tu viens pas, nous on sait où tu dors, on sait comment te repérer. Donc du coup, la jeune fille, elle est obligée de s'y mettre. Et bon, quand bon, elle y va, il n'y a pas de protection. Quand c'est levé, quand par exemple c'est les maladies sexuellement transmissibles, on peut traiter. Oui. Mais nous, souvent, on leur dit, si le VIH est rendu dedans, vous faites quoi? Elle dit, ah, madame, on veut changer, on veut changer, on veut changer. Bon, d'autres, c'est vrai qu'elles veulent changer, mais d'autres, par contre, tu sens qu'elles ne sont pas encore arrivées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore atteint l'objectif pour lequel elles sont rentrées dans les tontines sexuelles. Elles n'ont pas encore atteint ça. Donc, à chaque fois, c'est des plaintes qui tombent sur le bureau des proviseurs. Parce qu'en fait, ça commence à l'école et puis ça se termine au dehors. Lorsque, par exemple, elles font le groupe, elles s'en vont au dehors. Dans ce même groupe-là, la personne peut dire, ah, je préfère telle. Je la prends en charge et puis je m'occupe de ses soins. Donc la jeune fille, elle est consentante parce que du coup, elle va sortir du lot et qu'on appelle ça, elle va plus faire les patous, elle va sortir du lot pour être vraiment quoi, entretenue par le chef de groupe. Donc du coup, il met tout à sa disposition. Une fois que vraiment quoi, la jeune fille dit non, je veux plus, le chef va retrouver le proviseur pour dire non, vous avez tel élève qui me doit un téléphone, qui me doit de l'argent. Et quand on fouille, on voit que ouais, c'est dans un groupe de tontines sexuelles qu'il a pris à tâche avec la jeune fille. Donc, les grossesses, par exemple, les 2017-2018, la Côte d'Ivoire a fait 4487 cas de grossesse. Quand vous regardez, la plupart de ces grossesses-là proviennent des tontines sexuelles. Parce que ça a été le plus gros taux de grossesse en milieu scolaire. Et ça a commencé l'année passée. Elles étaient à fond là-dedans. On a essayé de les sensibiliser, mais c'était vraiment compliqué. Là, et dernièrement, on était au Burkina. Le Burkina a fait 484 cas. Ça veut dire 10% même de la Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, les jeunes filles gèrent leur sexualité. Elles se préservent beaucoup. Donc, en fait, on a besoin même d'inculquer ça même à nos jeunes soeurs ici. Donc, c'est un peu les risques qu'elles courent sur la grossesse en milieu scolaire.
D'accord, Yon, Patrice.
Oui. Si vous mettez devant une pharmacie le fin de week-end, c'est-à-dire samedi, dimanche, vous verrez des jeunes filles qui viennent payer les pilules du lendemain. Mm-hmm. Parce qu'elles ont peur des grossesses. Mais la pilule du lendemain va les protéger certainement contre les grossesses, mais pas contre les infections sexuellement transmissibles, pas contre le VIH. Et c'est ça qui nous fait peur aussi. La meilleure méthode pour éviter les grossesses, c'est le préservatif. Ça peut vous éviter les grossesses, ça peut vous éviter les infections sexuellement transmissibles, ça peut vous éviter le VIH. Mais les filles peuvent avoir des rapports non protégés et courir le lendemain à la pharmacie pour payer les pilules du lendemain. Et ça, c'est vraiment pas... Je pense pas que ça soit bien pour elles.
Je vais ajouter aussi quelque chose. En fait, quand vous regardez le taux de grossesse en milieu scolaire dans les villes, c'est là que malheureusement, il y a eu plus de tontines sexuelles. Quand vous regardez par exemple la Maraoué a fait 371 cas de grossesse. Mais là-bas, vous ne pouvez pas, avec elle quoi? Vous ne pouvez pas. En fait, là-bas, c'est... En tout cas, elles ont transporté ça autrement. Autrement. Le Gontougou, par exemple, qui était premier l'année surpassée, est devenu deuxième, avec toujours 300 et quelques cas de grossesse. En fait, c'est parce qu'elles sont dans des réseaux de prostitution, des tontines sexuelles, que vraiment ça fait grimper le taux de grossesse en milieu scolaire. Elles ne se protègent pas. Malheureusement, nos jeunes sœurs ne se protègent pas. On a besoin encore de les sensibiliser. On a besoin de prendre des tests, des lois vraiment dures, quoi, pour qu'elles puissent changer un peu de vie. Sinon, à cette allure-là, 2020, là, vraiment, nos filles sont menacées. Hein. Avec le terrain qu'on vient de faire, là, 2020, sont menacées.
Alors, parlons de terrain. Quelles sont les actions que vous menez, justement, pour lutter contre cette pratique? Vous avez tantôt parlé des Oscars de la décence.
Les Oscars de la décence, c'est une distinction pour les meilleures élèves féminines. Nous sommes à la 3e édition. À la 2e édition, on était à 12 régions. Cette année, on a 25 régions de la Côte d'Ivoire. On a le Burkina, la Guinée, le Mali qui participent. En fait, on fait la promotion de ces jeunes filles-là. Parce qu'après qu'on ait remporté le procès contre la presse pornographique, tout simplement parce que ces journaux-là étaient vendus devant les écoles. En fait, c'est tout ça-là. C'est vraiment un cheminement, quoi. C'est-à-dire ça a commencé là et puis ça progresse parce qu'il n'y a pas de loi en tant que telle. Donc, après ce procès-là, on s'est dit, mais pourquoi ne pas sensibiliser nos jeunes sœurs? Au début, par exemple, on les trouvait à Crocro-Nicro, Belle-Ela, au feu de Belle-Ela. Elles avaient 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Elles se prostituaient. À partir de 18h, tu gardes ta voiture-là, elle tombe sur toi. Même en plein 11h, derrière la banque, juste au feu-là, elles sont là. Il y a aussi la rue des Princes. Là-bas, c'est des jeunes garçons qui se prostituent. Donc, ça commençait là, étant en vacances. Et l'État n'a pas réagi. Ils se sont dit, bon, on va transporter ça à l'école. C'est ça, aujourd'hui, on parle des tontines sexuelles à l'école. Sinon, elles ont commencé ça dans la vie civile. Hein. Et puis, elles ont transporté ça à l'école. Donc, du coup, nous, en faisant les Oscars de la décence, on sensibilise d'abord les jeunes filles à l'excellence. Parce qu'après, on leur trouve des bourses d'études pour l'extérieur. Et ensuite, on les sensibilise sur le VIH, sur le taux de grossesse et puis sur la dépravation des mœurs. Donc, pour cette année-là, c'est vrai que le niveau est élevé avec les 16 de moyenne en terminale. Mais le niveau aussi de dépravation aussi est très élevé. On était dernièrement dans une région de l'Ouest, je vais taire le nom. Là-bas, il y a un prosénète qui les recrute dans le lycée. Et j'ai regardé dans sa liste-là, il n'y a pas de jeunes filles non élèves dedans. Ce n'est que des jeunes filles du lycée. Il dit, mais vous faites comment? Il dit, non, en fait, il les sélectionne au lycée. Et puis le soir, il se retrouve dans un maquis. Donc, après avoir discuté, elles font un convoi et puis elles vont à Daloa. Parce qu'elles disent qu'à Daloa, là-bas, ça marche. Donc, elles vont à Daloa. Donc, là-bas, elles font la tontine, elles font les patouzes. Quand elles finissent les dimanches, elles reviennent dans la ville. Je vais taire le nom. Elles reviennent dans la ville. Et puis, elles continuent sur comme elles font l'école normalement. Pourtant, dans le fond, c'est la prostitution. Donc, nous, en venant, on les sensibilise pour leur dire non, travaillez. Travaillez, par exemple, pour celles qui auront le bac avec la mention. Nous, on va vous octroyer une bourse d'études. Donc, l'année passée, il y a un an, par exemple, qu'ils ont pris conscience, qu'ils ont arrêté. Cette année, on a retrouvé sur le terrain. Ah, madame, j'ai changé. Qu'est-ce qui prouve que tu as changé? Voilà. Donc, quand on prend un peu le témoignage de ces jeunes filles-là, il y a un changement. Mais il y a un an, par contre, tant que vraiment il n'y a pas de loi pour taper dessus, là, elles ne vont pas changer. Elles ne vont pas changer. Donc, en fait, on fait la promotion du lutte féminin. On sensibilise beaucoup dans les élèves. Même la dernière fois, j'étais dans une ville à Boisflé. Je leur ai dit qu'on va mettre préservatif dans vos listes de fournitures. Elles ont commencé à crier, madame. J'ai dit non, on va mettre préservatif dans vos listes de fournitures à la rentrée. Parce que vraiment, quoi, on ne peut pas vous dire ne rentrez pas dedans. On va beau vous dire vous allez rentrer dedans. Donc, on va mettre préservatif pour que vous évitez de nous envoyer le sida, les MST les et les grossesses en milieu scolaire.
D'accord. Kambou Rodrigue?
Oui, il faut dire que nous, à notre niveau, en tant que jeunes, les actions que nous pouvons mener, c'est beaucoup plus la sensibilisation des pères. Et avec le mouvement national des jeunes de l'AIBF, dont ici le président régional, on a eu à bénéficier de deux projets, qui est l'un est l'éducation complète à la socialité, quand on mène dans la communauté et aussi dans les écoles, avec les jeunes pour leur donner la bonne information sur leur socialité, sur la communication avec les parents et comment aussi entretenir une bonne relation avec les pères. Mais aussi le projet Youth Connect, où on utilise les réseaux sociaux pour pouvoir véhiculer les messages forts à l'endroit des jeunes afin qu'ils puissent assumer leur socialité et être responsables de tout ce qu'ils font. Et à côté de ça, on organise des camps de vacances. C'est-à-dire parce qu'on sait que pendant les vacances aussi, ces jeunes-là sont beaucoup libres, ils font des choses. On organise des camps de vacances et pendant ces camps de vacances aussi, on forme ces jeunes à de bonnes pratiques sexuelles, on donne la bonne information, on donne les informations sur le leadership afin qu'ils puissent vraiment être des jeunes responsables et pouvoir s'assumer. Donc, c'est beaucoup plus la sensibilisation. On fait des activités de sensibilisation de masse. Je crois que l'année passée, on était au niveau de Fresco pour pouvoir faire cette campagne de sensibilisation et on a pu vraiment relever beaucoup de problèmes avec les prestataires comme aussi avec les jeunes. Donc, on organise, comme j'ai dit, il y a les camps de vacances qui sont faits avec les jeunes où ils viennent, non seulement ils s'amusent, en même temps on leur donne...
Profiter pour les sensibiliser.
Ça nous permet aussi de pouvoir les occuper sainement. Et donc cette année même, nous sommes à la troisième édition que nous sommes en train de préparer actuellement.
D'accord. Union Patrice.
Et nous avons au programme national de lutte contre le sida un projet, disons, campagne jeunesse scolaire. Hein. Donc nous faisons des sensibilisations dans les établissements, nous échangeons avec les élèves sur leurs pratiques. Hein, telles que, parce qu'il y a, à côté de la tontine sexuelle, il faut dire qu'il y a cette histoire de Z-Party, où ils se déplacent de ville en ville.
Z-Party.
Oui. C'est un peu comme, ça fonctionne un peu comme la tontine. Hein, ils se cotisent, ils louent une villa, ils envoient de la musique, ils envoient de la boisson, ils envoient de la drogue, et puis bon, ils s'amusent. Et ça peut se faire de ville en ville. Donc les jeunes sortent d'Abidjan, vont à Yamoussoukro, à Boaké, à Korogo, rien que pour s'amuser. Et ils font des rencontres avec des personnes dont ils ne connaissent même pas le statut sérologique.
Tout à fait.
C'est ça, pour nous, c'est ça qui est dangereux pour nous. Quand ils sont sous les effets d'alcool et de drogue, sont plus assez lucides pour utiliser un préservatif. Peut-être c'est ça aussi qui fait grimper le taux de grossesse en milieu scolaire aussi. Donc nous faisons des campagnes. On avait initié un jeu concours, SIDA passe pas par moi. Tout récemment, on a qu'on appelle, qui a permis à certains jeunes d'avoir de jouer et en même temps de s'informer et de gagner des lots et tout ça. Bon, mais en dehors du milieu scolaire, pendant les vacances, nous participons à tout ce qui est culturel. Comme Vacances Culture, où il y a un rassemblement de jeunes qui viennent de toutes les régions, on participe et on sensibilise les jeunes aussi pendant les vacances. Parce que c'est là, pendant les vacances, là où ils sont oisifs, que les risques de comportement déviant, voilà.
Ils sont plus grands. D'accord. Alors, au titre des solutions, Jocelyne Doiroux, vous avez fait quelques propositions tout à l'heure dans votre speech.
En fait, moi, la seule solution que je vois pour assainir les mœurs en milieu scolaire, faut que le chef de l'État ou bien Madame la ministre Kandia prenne des dispositions par rapport à nos élèves. Parce qu'ils sont en train de dévier. C'est vraiment une déviation. On crie pour dire que les parents ont démissionné. C'est pas parce que les parents ont démissionné que les élèves vont aussi dévier. Donc, par exemple, la ministre a dit un élève qui sort avec son professeur, le professeur est radié. Mais un élève qui sort avec son ami élève là, lui, pour lui là, c'est quoi? Parce que par exemple, lorsque vous voyez les proviseurs en début d'année, ils vous font sortir un lot de tests de grossesse, certificat de grossesse. Ça, c'est à la rentrée. Hein. C'est simplement la rentrée. Parce que pendant les vacances, elles sont rentrées dans une dépravation qui ne dit pas son nom. Donc, à la rentrée, le proviseur se retrouve avec un lot de grossesse. Quand vous regardez la partie où on dit le metteur enceinte, là, c'est des élèves. C'est des élèves eux-mêmes. Donc, ils prennent ça en vacances. Quand ils viennent en décembre, ils viennent encore avec, pendant les congés de décembre, ils viennent encore avec des grossesses. On dit pas qu'ils viennent encore avec des grossesses. Donc, en fait, ils prennent ça là-bas, au dehors, et puis ils envoient ça à l'école. Donc, du coup, il faut vraiment prendre des mesures sévères. Des mesures sévères pour pouvoir freiner ça.
D'accord. Cambo Rodrigue.
Oui. Moi, je pense qu'au niveau des solutions, c'est à plusieurs niveaux. Hein. C'est-à-dire, les solutions peuvent aller déjà de la maison, dans la communauté et même aussi au niveau de l'école. Et au niveau de la maison, il faudrait vraiment ramener certaines communications par enfant dont on a eu l'occasion de pouvoir bénéficier avant. Parce que nous, on a l'habitude de dire que la base de l'éducation de l'enfant, c'est la maison. Et toutes les informations, c'est vrai que l'enfant va entendre des choses dehors, mais parfois l'enfant vient vérifier à la maison sans que les parents ne sachent. Donc s'il vient vérifier qu'il n'y a pas d'information qui va venir vraiment soutenir ce qu'il a entendu bien, contredire ce qu'il a entendu dehors, là, il y a un problème. Là, il va se fier à ce qu'il a entendu dehors pour pouvoir faire. Et aussi, au niveau de, comment on appelle ça, au niveau de l'école, c'est vraiment comme maman a dit, c'est de mettre une loi qui va permettre de pouvoir mieux cadrer les jeunes filles, mieux cadrer les jeunes et intensifier la communication, l'information surtout, pour que les jeunes puissent savoir que telle chose qui est en train de faire, voilà les conséquences que ça va amener. Pas forcément au niveau de la maladie, pas au niveau des infections, tout, mais si les études même. Parce qu'aujourd'hui, c'est, quand on me dit, par exemple, la maturité, c'est à la maturité, on doit avoir des rapports sexuels. C'est-à-dire que déjà, si on a des rapports sexuels avant la maturité, ça peut engendrer certaines conséquences sur le corps, pas forcément, mais ça peut être au niveau mental. Donc ça peut, comment on appelle ça, ça peut empiéter sur les études ou bien l'avenir des jeunes. Donc c'est d'intensifier la communication, la sensibilisation à l'endroit des jeunes, mais en même temps aussi ramener le système communication parent-enfant à la maison. Mettre une loi, et puis avec Dieu merci, on a l'éducation complète à la socialité, avec le ministère de l'éducation, le ministère de la jeunesse, le ministère de la santé, qui sont en train d'insérer ça dans le curriculum de formation. On peut que cela puisse aboutir de sorte que les jeunes soient vraiment informés, qu'ils soient à la maison et à l'école, de sorte qu'ils puissent avoir vraiment toutes les armes nécessaires pour pouvoir faire face à cette situation.
D'accord, Nyon Patrice.
Je pense que tout se résout à la communication. Tant entre les parents et les enfants, parce que pour moi, l'essentiel, ce n'est pas c'est pas la répression, c'est pas de réprimander. C'est vrai qu'on peut mettre des lois, on peut mettre des balises et tout ça pour réglementer certaines choses, mais il ne faut pas trop penser répression. Parce que la seule chose qui aide à changer, c'est la communication, l'information. Tant que l'autre n'a pas, dans le processus de changement de comportement, l'information est le niveau le plus important pour amener quelqu'un à changer de comportement. Si, même avec votre enfant à la maison, si vous passez le temps à lui crier dessus, vous n'êtes pas en train de l'informer, vous n'êtes pas en train de l'aider. Vous n'êtes pas en train de communiquer avec lui. Il faut vous asseoir et discuter et présenter les choses de façon claire à l'enfant. Qu'est-ce qu'il gagne en faisant telle attitude? Voilà les risques qu'il court en ayant telle attitude. Dans tous les cas, c'est lui qui décide. Mais il faut l'informer.
Moi, je voulais ajouter.
D'accord.
Je voulais juste dire, je ne suis pas d'accord avec ce que M. Noir a dit.
J'en étais sûre. Hein?
Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait...
Vous êtes pour la mesure répressive.
Il faut faire la répression. Mm-hmm. Au stade où on est arrivé là, il faut passer à la phase de la répression. Parce qu'on met assez d'argent dans la sensibilisation. Moi, par exemple, je finance les Oscars à fonds propres. À fonds propres. Vraiment quoi, c'est pas des lettres que je reçois de l'extérieur. C'est à fonds propres. Je prends et mon temps et mon argent. Mais ces élèves-là, tu les parles. Dès que tu tournes dos là, ils s'en vont dedans. Parce que
mais est-ce que justement, il ne faut pas explorer aussi le volet communication, comme il le dit? Puisque selon vous parlez, vous sensibilisez, mais le phénomène demeure.
Mais alors, est-ce que ce n'est pas... Là, oui? Certains parents ont carrément démissionné. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un père de famille qui dépose son enfant chez un tuteur à la rentrée, et puis après, tu n'y passes plus. Bon, ton enfant là, tu veux qu'elle mange quoi? La dernière fois, par exemple, j'étais avec monsieur le DICAP de l'éducation nationale. Il me disait que, ouais, il y a par exemple cette mère de famille, on a affecté sa fille dans une ville. Elle prend la fille, elle dépose l'enfant chez un tuteur à la rentrée. Et puis, elle ne vient plus. En vacances, la fille retourne chez sa maman. Tu ne sais pas comment ta fille a vécu toute l'année. Hein. Tu ne sais même pas avec qui même elle marche. Tu allais t'asseoir. À la rentrée encore, elle reprend l'enfant, elle met l'enfant dans le cas, elle lui dit va chez quoi ton tuteur. Elle prend pas la peine même de l'appeler. Et la petite fille arrive dans la ville là, le tuteur a été affecté. un coup, elle revient dire au DIC, monsieur le DIC, ils ont affecté ma fille là-bas, mais le tuteur n'est pas là. C'est parce que tu n'as pas pris la peine d'être regardant sur quoi l'éducation de ton enfant. Donc, en fait, les parents qui ont démissionné là, où on est arrivé là, c'est plus affaire de causerie qu'on va faire avec eux. Mm-hmm. C'est pourquoi j'ai dit, cette loi du chef de l'État qui a dit que ouais, tous les débits de boissons sont interdits au moins de 18 ans là, faut que tous les maires de Côte d'Ivoire, maires, M-A-I-R-E, la S, là, faut que tous les élus de Côte d'Ivoire, surtout même les maires qui ont vraiment quoi, en charge de l'éducation de nos enfants, là, faut qu'ils appliquent cette loi-là. De telle sorte que, ouais, un enfant de moins de 18 ans qu'on retrouve dans les débits de boissons, là, tu ne vas pas aller en prison, non, parce que tu es élève. Mais on va te faire laver les WC de chez ton école, on te fait balayer les rues, parce que ces mêmes rues-là sont balayées par vos mamans. Chaque matin, à 5h du matin, les femmes-là sortent, elles balayent les rues. Et puis, vraiment, quoi, vous, maintenant, à minuit, vous venez prendre la place, vous jetez les lotus, les capotes partout, tout simplement parce qu'on doit vous doloter. Non, ça, c'est fini. Si on fait la répression, vous allez voir que certains parents vont prendre conscience. Et aussi, ces élèves-là, aujourd'hui, par exemple, la jeune fille qui est enceinte, on dit que comme tu es enceinte, que tu as la force, tu peux continuer le cours, elle dit oui. Donc, aujourd'hui, la grossesse est vraiment autorisé, et comment on appelle ça,
en milieu scolaire.
Donc du coup, si par exemple moi je suis enceinte, que ouais, le proviseur ne m'a rien dit, on me dit va à l'école, donc ma camarade qu'elle a là, ma camarade de classe, elle aussi, elle va se dire bon d'accord, je vais prendre aussi une grossesse, puis c'est ma camarade, on lui a rien dit, on l'a pas renvoyé, donc moi aussi on va pas aussi me renvoyer, donc du coup c'est passé tout simplement, il n'y a pas de loi.
Alors pour rebondir loi, sur le sujet, Rodrigue Kambou.
Oui, moi ce que j'aimerais dire, c'est que le mieux, c'est d'essayer de combiner les deux méthodes. Parce qu'à la base, c'est la communication. C'est la communication. Je suis d'accord avec ce que Maman Tan dit. Mais s'il y a, en fait, c'est vraiment, on met ses barrières, on met ses lois, par exemple. Tout à l'heure, il disait que souvent, les jeunes filles sont encadrées par une grande personne qui vient les prendre pour les mettre dans ce phénomène-là. Bon, imaginez, on dit, bon, tous les jeunes de moins de 18 ans n'ont pas accès au bar, au maquis. Par contre, ces jeunes ont un mentor qui est adulte. Il peut aller prendre la boisson pour venir la donner. Donc moi, je pense que déjà, c'est de faire comprendre aux jeunes, quand il dit faire comprendre au sens propre du terme aux jeunes, l'importance des attitudes qu'ils adoptent. Leur expliquer correctement, les sensibiliser pour qu'ils aient, toutes les informations. Mais en même temps aussi, leur monter de l'autre côté, si ce qu'on leur dit n'est pas appliqué, voilà ce que ça va donner. Mais quand automatiquement, on vient puis on dit, bon, si tu ne fais pas ça, tu vas laver les WC, ben tu vas balayer les rues. Il va le faire parce que vous avez dit, mais lui, il sort dans votre contexte, qui se dit dans notre contexte, il va adopter le comportement du nouveau contexte. Par contre, s'il a l'information, il est bien formé, peu importe là où il se trouve, il sait qu'à la base, voici ce qu'on doit faire, voici ce qu'on ne doit pas faire. Donc moi, je pense que ces deux méthodes, on peut les combiner pour pouvoir vraiment faire bouger les choses.
Vous savez, aussi. D'accord. Aussi. Je pense qu'on va pas. On va pas. On va. Excusez-moi. On va pas s'éterniser sur le sujet.
Pour les prostituées. Mais ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de rue. En fait, il n'y a pas de loi. Donc, quand il n'y a pas de loi, là, chacun peut se lever, bon, faire ce qu'il
d'accord.
Veut.
Alors,
ce que j'aimerais dire, voilà, pour terminer, c'est qu'il faudrait rapidement. Que les parents arrêtent de penser que nous, les jeunes, sommes des anges. Parce que souvent, quand tu dis à un parent, je vais échanger avec ton enfant sur tel thème, mon enfant ne fait pas ça. Voilà, donc il faudrait que aussi les parents arrivent à accepter que les enfants sont dans un milieu avec d'autres jeunes ou ils sont exposés à d'autres choses. Donc il faudrait que ces jeunes aient ces informations. Parce qu'on souvent dans la sensibilisation, le papa ou bien la maman te dit, ma fille ne fait pas ça. Alors quand tu échanges avec la fille, tu te rends compte que la fille déjà, elle a 4-5 partenaires. Donc il faudrait assez.
On va terminer par Nyon Patrice avant votre mot de fin.
Je voulais dire qu'on peut combiner les deux. Hein.
Le bâton et la carotte.
Voilà, on peut combiner. Il faut trouver le juste milieu pour faire les choses. Mais surtout, la communication doit être la base. C'est ça. Les parents, on doit communiquer même avec les parents. Pour leur dire, mais vous mettez votre enfant à l'école, vous ne connaissez même pas son programme. C'est-à-dire, si vous dites, s'il n'a pas cours, il peut vous dire qu'il a cours, il s'en va, il fait ce qu'il veut. Et c'est ce temps-là qu'ils utilisent, en fait. Parce que les parents ne sont pas regardants sur leur programme.
Leur emploi du temps.
Leur emploi du temps, voilà. Donc, ils ne regardent pas leur emploi du temps. Donc, l'enfant peut dire ce qu'il veut et il va faire ce qu'il veut sans que le parent ne se doute de quoi que ce soit. Et comme il a dit, la plupart de ceux qui font sont des anges à la maison. Mm-hmm. Mais au dehors, je ne sais pas si on doit dire des diables ou bien des quoi, mais en tout cas, ils sont très
ils
graves.
Ont un autre visage.
Voilà, ils ont un autre visage. Donc, il faut que le parent aussi sache avec qui son enfant marche. Vous savez que l'influence du changement du comportement part aussi des parents, mm-hmm. mais de tous ceux qui entourent l'enfant. Mm-hmm. Ça peut être son éducateur, ça peut être ses camarades de classe, mais en tout cas, son environnement immédiat va l'influencer. Donc, il faut savoir avec qui marche ton enfant. Et comme ça, tu peux... Nos parents, avant, ils disaient, je ne veux plus que tu marches avec ce jeune-là. Parce qu'il a une mauvaise influence sur toi. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, combien de parents le disent? Combien prennent le temps d'observer les amis de leurs enfants? C'est pas évident.
D'accord. Nous allons refermer les portes de cet espace de discussion. On va terminer par vous, Cambo Rodrigue, un appel à lancer à tous ces jeunes-là qui nous écoutent.
D'accord, j'aimerais réitérer mes remerciements pour l'occasion que tu nous as donné de pouvoir nous adresser aux jeunes. Voilà, ce que j'aimerais dire à mes amis, à mes camarades, c'est que nous sommes tous jeunes et la jeunesse c'est un temps. La jeunesse ça passe et c'est pendant cette jeunesse-là qu'on construit l'avenir, on bâtit notre vie. Donc il ne faudrait pas occuper ce temps-là à faire des choses qui vont compromettre notre vie, notre avenir. Il faut être responsable. Quand on dit responsable, on n'a pas s'amuser. Mais il faut s'amuser tout en respectant un contexte bien défini pour ne pas entacher notre avenir. Les parents nous ont mis à l'école et nous sommes un peu leur investissement. Ce n'est pas l'argent qu'on va amener à nos parents qui vont faire la fierté, mais c'est le nom qu'on va amener au niveau national, au niveau international, qui va faire que nos parents seront fiers de nous. Donc il faut être assez responsable et puis il faut être aussi, je peux dire ainsi, lucide. Il ne faut pas se laisser influencer par les autres pour pouvoir faire certaines choses dont on n'a pas envie. Voilà, quand on décide de faire quelque chose, parce qu'on a analysé le pour, le contre, et on le fait, et on est prêt à assumer les conséquences. Donc moi, l'appel que j'aimerais lancer à mes amis jeunes, c'est d'être assez responsable pour pouvoir assumer leur avenir. Merci.
Je vous en prie, Cambo Rodrigue. Nyon Patrice.
Je voulais dire que toutes ces pratiques, les parties, tontines sexuelles, sont des pratiques à haut risque. Parce que au cours de ces pratiques-là, je ne pense pas qu'ils prennent le temps de se protéger. Et je voulais les inviter à se protéger en utilisant systématiquement et correctement le préservatif. Peut-être à une autre occasion, on va en discuter, mais c'est difficile de distribuer des préservatifs dans les établissements. Et ça aussi, il faut qu'on essaie de voir. Parce que les jeunes, c'est vrai, on les voit comme des gens sains, des gens... Mais en réalité, on leur enseigne d'utiliser le préservatif, mais aussi d'être abstinent jusqu'à ce qu'ils terminent leurs études et tout ça. Mais on les retrouve dans les maquis, dans les rues, en train de consommer de la drogue, en train de consommer de l'alcool. Mm-hmm. Et là, après l'usage de ces substances-là, ils sont plus lucides pour se protéger. Et ça va faire accroître le taux d'infection du VIH et des grossesses non désirées en milieu scolaire.
D'accord.
Alors, je voulais inviter à un changement de comportement.
D'accord, je vous remercie. Jocelyne Doiroux.
Bon, moi en fait, je voulais juste dire aux parents, si nous voulons une école de qualité, ici en Côte d'Ivoire, je demande aux parents d'être très regardants sur l'éducation de leurs enfants. Les histoires de ma camarade de classe fait son anniversaire là. Ne laissez pas vos enfants aller seuls dans les anniversaires de classe. C'est là-bas que commencent les tontines sexuelles. Je voudrais aussi m'adresser aussi à nos élèves, nos jeunes sœurs. Vraiment d'être un peu responsable de leur corps. Parce que mine de rien, elles sont appelées demain à être chef d'entreprise, à être ministre, pourquoi pas même chef d'État dans ce pays-là. Donc en fait, la relève là, ce sont elles. Je voudrais vraiment les inviter à être plus consciencieuses, à prendre leurs études au sérieux, d'éviter ces histoires de dépravation des mœurs qui va pas aboutir à quelque chose de meilleur pour elles. Donc, je voudrais vraiment leur dire de rester tranquille. Et à tous ces maires de Côte d'Ivoire, tous ces élus locaux-là, on leur demande simplement d'appliquer la loi que le chef de l'État a promulguée sur les débits de boissons. De vraiment interdire les débits de boissons à nos enfants à partir de moins de 18 ans pour vraiment réduire le taux de grossesse en
milieu scolaire. En tout cas, on sent que ça vous tient à cœur,
oui,
franchement.
Oui, ça me tient vraiment à cœur. Parce que je vais terminer aussi par aussi cet exemple-là.
D'accord, assez rapidement.
Une jeune dame à Boundiali qui a pris la peine de parcourir tous les maquis de Boundiali pour dire, ma fille, elle est en terminale, elle n'a pas 18 ans. Si jamais vous la voyez s'asseoir dans un maquis, vous m'appelez, je viens la chercher. Et la jeune fille...
Avec souvent, photo à l'appui.
Oui, avec photo à l'appui. Et vraiment, la jeune fille, souvent, elle saute la clôture. Quand sa maman dort, elle s'en va. Donc, souvent, c'est les tenanciers même de maquis, là même, qui appellent la mère pour dire, ah, la dernière fois, tu nous as garé, mais ta fille, elle est là. Elle s'en va, elle soulève sa fille. Mais aujourd'hui, là, sa fille, elle a eu le BTS. Elle a eu le BTS. Donc, vraiment, on demande aux parents d'être regardants à nos élus, de mettre en application cette loi-là sur les débits de boissons et puis aux jeunes filles de prendre soin de leur corps.
D'accord. Jocelyne Doiroux, rappelons que vous êtes présidente de la Confédération des femmes laïques pour la réhabilitation de l'image de la femme. Avec vous sur notre plateau, Cambou Rodrigue, étudiant et membre du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé sexuelle et de la reproduction en Côte d'Ivoire. Réunion Patrice du programme national de lutte contre le sida. Vous étiez avec nous aujourd'hui pour parler de tontine sexuelle. Encore merci d'être venu.
C'est vrai que vous remercions.
Les